Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Dans l'édition Santé pour tous de ce jour, nous allons passer en revue la carte sanitaire du district de santé de Marois 1er. Nous recevrons à cet effet le docteur Menan Augustin, chef du district de santé de Marois 1er, avec qui nous allons faire l'état des lieux de l'offre en service de santé dans son territoire de compétence. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré Volcan FM. La mise au point d'un système de santé performant qui assure la promotion de la santé des populations dans un contexte d'égalité et d'équité est une préoccupation majeure qui s'est imposée à tous les pays du monde. Cet impératif passe nécessairement par l'élaboration des outils de management déconcentrés et efficaces, au premier rang desquels la carte sanitaire. La carte sanitaire, appelée aussi offre de soins, est un document technique qui définit des critères de planification et de régulation de l'offre de soins pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins sanitaires de la population. Plus simplement, la carte sanitaire est un ensemble de ressources sanitaires déployées dans un territoire donné pour réaliser au profit de la population des activités de promotion, de prévention et de soins. Cet outil de management sanitaire a pour principaux objectifs d'assurer une meilleure disponibilité des services pour la population, d'améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités par la correction des déséquilibres observés, de rationaliser le développement sanitaire du pays, de déterminer le cadre adéquat pour le développement des infrastructures, des équipements et des ressources humaines nécessaires pour toutes les circonscriptions d'un pays, et enfin, de disposer d'un instrument efficace de régulation, du développement et de l'offre de soins. La région de l'extrême nord fait partie des régions du Cameroun où l'offre en soins de santé est largement en deçà des besoins et des attentes de la population. La crise sécuritaire liée à Boko Haram est venue accentuer l'écart par rapport aux autres régions du pays. D'autre part, on observe aussi des disparités d'un département à un autre ou d'un arrondissement à un autre de la région. Pour comprendre dans les moindres détails les éléments constitutifs d'une carte de santé, nous allons nous attarder sur celle du district de santé de Marois 1er, dont le chef nous fait l'amitié de nous ouvrir ses portes ce jour. Son entretien à suivre derrière cette courte respiration. Docteur Menan Augustin, vous êtes le chef du district de santé de Marois 1er. Bienvenue sur les antennes de Radio Serré.
Merci Radio Serré qui s'intéresse aux choses de la santé et en particulier au district de santé de Marois 1er.
Alors aujourd'hui, nous allons dresser la carte sanitaire de votre district de santé. Mais avant, est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de votre carrière médicale et administrative jusqu'à votre arrivée à la tête de ce district de santé?
Ok, merci. Je suis sorti de l'école en 2002, donc j'ai travaillé dans le privé en 2002-2003. Après, j'ai été intégré dans la fonction publique et affecté dans le district de santé de Guéret dans le Maïdanaï. Après, c'est-à-dire en 2004. Après, j'ai travaillé au district de santé de Yagoua de 2011 à 2014. Et puis, district de santé de Kaélé de 2014-2019. Et comme chef de brigade de contrôle des activités et soins de santé à la délégation régionale de 2018 à 2019. Et puis, chef de district de santé de Marois 1er depuis septembre 2019. Et je voulais juste ajouter qu'actuellement, je suis le point focal de la santé de production pour la région de l'Extrême Nord.
Merci, docteur. Alors, lorsqu'on parle de district de santé, c'est déjà quoi un district de santé et combien de districts de santé compte notre région?
Ok, si on va regarder les documents cadres qui est l'organigramme du ministère de la Santé 2013, le district de santé constitue une entité socio-économique assurant des prestations de bonne qualité accessibles à tous avec la pleine participation des bénéficiaires issus les limites de ses constitutions administratives et peut en cas de besoin couvrir une ou plusieurs unités administratives limitrophes. En général, le district va emboîter directement les limites d'un arrondissement, mais il y a des situations où un district peut couvrir la surface de 3-4 arrondissements.
On retient donc le district de santé de Maroua 1er concerne l'arrondissement de Maroua 1er. Justement, quelles sont l'étendue et les limites géographiques de votre district de santé?
Bon, le district de santé de Maroua 1er est un district qui est entièrement entouré par d'autres districts. Ce n'est pas un district frontalier, ce qui est très important. On a limite avec Maroua 2, district de Méri, à l'est avec le district de Gazawa, au sud avec le district de Moutoua, et puis à l'est avec le district de Mindif.
À combien d'habitants est estimée la population de votre district de santé?
Pour 2022, la carte sanitaire du district, on est à 208 300 habitants. Voilà.
Alors, sur le plan infrastructurel, combien de formations sanitaires compte votre district de santé? Qu'il s'agisse de formations publiques ou bien celles privées?
Dans le district de santé, il y a 18 formations sanitaires. Et dans ces formations sanitaires, il y a une division équitable. Il y a 9 qui sont publiques et 9 qui sont privés. Donc, dans les privés, c'est un peu les privés confessionnels. Il y a des hôpitaux, il y a des centres de santé, il y a des cliniques. Mais pour le public, c'est seulement les centres de santé intégrés, 9 centres de santé intégrés. Il faut aussi, si on veut parler de la carte santé, on va aussi ajouter les laboratoires d'analyse médicale. Il y a des laboratoires d'analyse médicale, 2 écoles de formation médicale et 5 officines. Ajouter peut-être la délégation régionale de la santé et bel et bien dans le district de santé de Maroua 1er. Il y a aussi le forum régional de promotion de santé qui est dans le district de santé de Maroua 1er. Le district de santé de Maroua 1er héberge même 2 autres districts, district de santé de Maroua 2e et district de santé de Maroua 3e.
Alors quand vous parlez des officines, faites allusion à quoi, pharmacie ou bien?
Oui, c'est des pharmacies, ce qu'on appelle en général les pharmacies publiques. Ils sont à 5, voilà.
Alors, docteur, pour ces catégories de formation sanitaire et même d'autres structures que vous avez listées, quels sont les standards requis en termes de plateau technique? Et est-ce que tous vos centres de santé intégrés répondent à ces standards-là?
Les centres de santé, il faut regarder les formations sanitaires comme un continuum. Il y a ceux qui sont à un niveau très avancé de viabilisation. Il y a ceux qui sont au début. Il faut aussi tenir compte que ces formations sanitaires n'étaient pas créées au même moment et que ces formations sanitaires n'ont pas le même niveau de fonctionnement. Une formation sanitaire dans la zone rurale ne peut pas avoir le même fonctionnement qu'une formation sanitaire dans la zone urbaine. Donc ces formations sanitaires ont de différentes capacités et différents standards de fonctionnement. Mais ce que je voulais insister, c'est qu'ils offrent le paquet de soins standards comme défini par la santé publique au Cameroun, le paquet de soins standards est offert par toutes ces formations sanitaires.
Lorsque vous parlez de ce paquet de soins standards, est-ce qu'on peut avoir un terme simplifié concrètement de quoi est-il est question?
Oui, ces formations sanitaires d'abord font dans les activités préventives, c'est-à-dire la vaccination, la lutte contre la malnutrition. Ils sont dans les activités de promotion de la santé, comme l'hygiène et l'assainissement. Sont dans la consultation de maladies courantes. Et aussi, ils font la prise en charge de ces maladies courantes. Ils font les accouchements, les consultations prénatales. Et ils sont aussi dans le système de référence de maladies qui nécessitent un plateau technique plus élevé. Donc, une formation santé au Cameroun doit être capable de faire les activités de promotion de la santé, de prévention, de prise en charge de maladies courantes et aussi servi comme dans le réseau de continuité des soins.
Alors, tout à l'heure, vous avez spécifié que votre district de santé a environ 208 300 habitants et il y en a 18 formations sanitaires. Comment vous, en tant que chef de ce district de santé, vous appréciez cette offre en formation sanitaire? Est-ce qu'elle est adaptée et suffisante pour votre population?
Merci. Je pense que je suis le district santé de Maropeme est nettement mieux parce qu'on se trouve des formations sanitaires de différentes catégories dans cette formation sanitaire. Donc, ils sont, je peux dire, adaptés aux besoins. Parce que vous avez des centres de santé intégrés qui vont faire des soins, qui donnent le paquet minimum de soins. Et puis, après, vous avez les hôpitaux de district assimilés. Ils sont à deux. Vous avez même des cliniques et des cliniques spécialisées dans la radiologie et autre chose. Moi, je pense que le district de santé de Maropeme a vraiment une offre riche en prestations de soins de santé. Je n'ai pas oublié de pharmacie publique, je n'ai pas oublié les laboratoires d'analyse publique qui sont aussi dans le district. Donc, je pense que l'offre de soins tend à vraiment satisfaire les besoins dans le district de santé de Maropeme.
Ça dit qu'il n'y a pas un gap à combler, ça dit que tout ce que vous offrez comme service répond entièrement à tous les besoins de votre population?
Non, non, non. Les normes de formation sanitaire au Cameroun, je peux dire aire de santé au Cameroun, c'est 7 000 à 10 000 habitants. Bon, pour le district, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est si vous regardez les aires de santé, sur les 11 aires de santé, il y a peut-être 2 aires de santé qui ont une population dans les limites normales. Donc, toutes les aires de santé dans le district ont besoin d'être éclatées en plus petites aires de santé et ensuite bénéficier des créations de formations sanitaires. C'est un travail de découpage qu'on a déjà fait depuis l'année passée et c'est l'hiérarchie qui va donc entérimer ça avec les notes de service. Donc, c'est insuffisant. La population de Maroua est grandissante. Vous savez que le district de santé de Maroua primaire se trouve en pleine ville, plein centre-ville de Maroua. Donc, les populations sont grandissantes. Et il y a des aires de santé qui ont besoin d'être éclatées en 3 heures même, actuellement.
Alors, docteur, justement, quand vous parlez d'aires de santé, est-ce qu'on peut avoir une définition succincte de ce que c'est qu'une aire de santé et combien en compte, justement, votre district de santé?
Ok. Ça entre dans l'organisation, l'organigramme de santé au Cameroun. Vous savez, il y a donc cette niveau central, niveau intermédiaire et niveau périphérique. Au niveau du niveau périphérique, on a la délégation, on a le district de santé qui est la zone opérationnelle des activités de santé. Le district de santé est divisé en certaines zones géographiques qu'on appelle aires de santé. Et chaque aide de santé a certaines formations. Et donc, c'est pour faciliter la prise en charge, la participation communautaire. C'est-à-dire que je suis dans l'aide de santé, j'appartiens à l'aide de santé, je suis lié à cette formation sanitaire. Le centre de santé mène les activités envers moi. Donc, c'est une sorte de zone de responsabilité de l'aide de santé. Donc, on a 11 aides de santé dans le district de santé de Maropeme. Mais je disais que c'est pour le moment 11. Hein. On peut encore augmenter vu la population de l'air. Il disait que l'air de santé doit avoir en général entre 7 000 et 10 000 habitants. Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir la liste de ces 11 aires de santé?
Bon, on va suivre l'ordre alphabétique, hein, c'est pas l'ordre de performance. On a l'air de santé de Béguélé qui est à 19 km d'ici. On a donc l'aire de santé de Domayo 2 qui est à moins de 1 km d'ici. On a l'aire de santé de Domayo Jama qui est juste en fait d'ici dans l'aire de santé de Domayo Jama. On a l'aire de santé de Domayo Kagama qui est à moins d'un kilomètre ici. Puis on a l'aire de santé de Katoal qui est à 22 km ici. L'aire de santé de Makabaï, 12 km d'ici. L'aire de santé de Miskin, 13 km. L'aire de santé de Ngaza, à 12 km ici. L'aire de santé de Orochede qui est à 4 km d'ici. L'aire de santé de Pala, 10 km. Et l'aire le plus éloigné, c'est l'aire de santé de Salak qui est à 25 km d'ici.
Merci pour ces précisions, docteur. Sur le plan des ressources humaines, est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres du personnel médical de votre district de santé en termes d'aides-soignants, infirmiers, médecins, laborantins et consorts?
Bon, on va essayer de donner la situation générale parce que d'après les derniers recensements, on va seulement discuter sur le personnel d'État parce que le personnel privé, on n'a pas encore fait la mise à jour pour cette année. Donc, le district compte 68 personnels à la solde d'État. Donc, il y a un médecin, 12 infirmiers, ça veut dire infirmiers adjoints, assistants principaux supérieurs, un sage-femme, 3 infirmiers adjoints, infirmières accoucheurs, 38 aides-soignants, 5 ATMS, option laboratoire, un technicien adjoint de laboratoire, un TPGS et un TGS. Tout ça là, c'est du personnel qui travaille au niveau de labo. Je voulais insister qu'on a 68 personnels de santé à la sortie d'État, mais 115 temporaires. C'est-à-dire que les structures sanitaires font l'effort de recruter jusqu'à 115. Et le district même recrute 3. Il y a le service de santé du district à 3 personnels temporaires. Voilà.
Docteur, dites-nous, les 115 personnels temporaires qui sont recrutés directement par les formations sanitaires, comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Par le district de santé ou bien par les formations elles-mêmes?
Non, les formations santé, vu s'ils ont leurs besoins, et puis ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a des formations sanitaires avec, vous imaginez, un ou deux personnels. Ils ne peuvent pas forcément, ils sont obligés de recruter et payer avec les fonds propres. Alors, d'ici de santé, c'est la même chose. Il y a un temps, l'année passée, il y a l'État qui subventionne la prise en charge de personnel occasionnel. Et quand on regarde ce personnel occasionnel avec le SMIT, ça fait peut-être 8 personnels qu'on peut prendre en charge au niveau des aides de santé, 4 au niveau du district. Donc on est très loin de 115 qui sont actuellement pris en charge par les propres moyens de formation sanitaire.
Et ça, c'est pour le personnel justement relevant des structures publiques. Pour celles relevant des structures publiques, vous avez dit la mise à jour n'a pas encore été opérée. Mais au moins pour les années précédentes, notamment l'année 2020-2021, est-ce qu'on peut avoir une estimation de ces personnels-là?
Bon, en tout cas, je disais que pour les personnels de privé, on pourra compléter éventuellement le fichier, mais le privé va comprendre des cliniques. Il y a aussi des cliniques. Il y a deux hôpitaux de district, comme je disais, deux hôpitaux de district ou bien qui ont un niveau d'un hôpital district, c'est-à-dire la CMPS et le CBC Health Service de Meskin. Ces structures ont le personnel de médecins, même les spécialistes, les gynécologues, les dentistes, les opticiens. Donc, il y a le clinique d'émergence qui a un spécialiste qui est un radiologue. Donc, dans le district, le privé a aussi un offre riche en personnel, en ressources humaines.
Quel est le personnel médical requis pour les différentes catégories de fonctions sanitaires? Lorsqu'on est en face d'un centre de santé intégré, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme minimum, comme personnel minimum? Pareil pour les autres types de formations sanitaires qu'il y a dans votre district de santé.
Pour la formation sanitaire, on a au moins besoin d'un infirmier diplômé. On a au moins besoin d'une sage-femme. Et puis, des aides-soignants. Ça, c'est des personnels qui sont requis pour fonctionner un centre de santé à minimum. Parce que si on regarde les normes, selon le Cameroun, c'est plus que ça. Il y a plusieurs spécialités qui doivent entrer dans ces formations sanitaires. Et si on entre dans les hôpitaux districts ou assimilés, c'est encore plus critique parce que on va regarder en termes de services, services de néonatologie, services de chirurgie, services de radiologie. Donc, ensuite, ça va devenir plus complexe. Juste pour dire quelque chose, qu'on a un problème de ressources humaines parce que les formations sanitaires ont en moyenne 1-2 personnels, ce qui n'est pas particulier avec Maroapeme, il faut vraiment souligner. Donc, on aimerait avoir, parce que quand vous regardez, vous trouvez dans les structures d'État, c'est 12 infirmiers seulement contre 38 aides-soignants. Donc, on a besoin de plusieurs infirmiers et les infirmiers spécialistes, notamment les sages-femmes, comme on a l'air de prévention de la mortalité maternelle et infantile, il faut absolument avoir des sages-femmes. On a un problème de sages-femmes, on a recensé une seule sage-femme.
Docteur, dites-nous, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour assurer l'approvisionnement en médicaments dans vos sanitaires? On sait que d'habitude, il y a des usagers, des patients qui se plaignent parfois de la qualité des médicaments qu'on leur vend dans les hôpitaux ou des centres de santé intégrés. Quel est le mécanisme mis en place à votre niveau en tant que hiérarchie pour vous rassurer effectivement que ces centres de santé ont des médicaments de qualité et en quantité suffisante?
Bon, il y a trois choses qu'on peut dire, ou bien trois axes qu'une personne qui a besoin de médicaments peut emprunter. La première chose, c'est que le Cameroun a un système national d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux. Ce sont les médicaments génériques ou les médicaments subventionnés. Et toutes les formations sanitaires ont un compte au niveau du Fonds régional de promotion de santé. Donc, en fonction de leur consommation, ils émettent les bons de commande et ils peuvent être approvisionné directement ou bien attendre la livraison trimestrielle. Ça, c'est la première piste. Deuxième piste, les médicaments de programme. Vous avez les programmes de lutte contre le paludisme, de lutte contre la tuberculose, de lutte contre le VIH, de lutte contre la malnutrition. Ces intrants sont quantifiés, acheminés au district et chaque formation sanitaire récupère les produits et mettre à la disposition de bénéficiaires, gratuitement, évidemment. Alors maintenant, au niveau du troisième volet, je vous ai dit qu'il y a des officines publiques. Vous avez le droit d'aller dans une pharmacie publique, prendre et acheter votre médicament tranquillement. Mais ça va être plus cher avec les populations qui sont diminuées. Donc le système d'approvisionnement en médicaments au Cameroun, c'était ce système qui était pour répondre à ces problèmes de fournir les médicaments de qualité à des prix vraiment abordable pour les populations qui n'avaient pas assez de moyens. Donc, il n'y a pas un problème de qualité des médicaments s'ils sont transités par le système d'approvisionnement de médicaments et consommables médicaux au Cameroun.
Je voudrais faire relever, docteur, qu'il y a également des patients. Ça m'est arrivé, moi aussi, en tant que patient, de me faire consulter dans un hôpital public pour ne pas dire centre de santé intégré, mais que les médicaments qui me sont prescrits ne sont pas disponibles dans cette formation sanitaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela et est-ce qu'il y a des mesures correctives que vous prenez justement pour éviter ce genre de situation?
Ok, merci. Ça entre dans la gestion des intrants qui est un domaine particulier. Il faut que le commis soit outillé à la gestion d'intrants. Il faut émettre la commande d'un médicament, pas car il y a routine. Il y a un chiffre, il y a un niveau de quantité qu'il faut déjà lancer la commande. Donc, il se pourrait que parfois, ils sont négligents, ils ne lancent pas les commandes à temps. Ils veulent attendre qu'il y ait plusieurs médicaments en voie de rupture ou bien déjà en rupture avant de lancer les commandes. C'est quand même désolant. Quelqu'un qui vient dans une formation sanitaire, il doit être consulté et doit bénéficier de prise en charge si les médicaments sont des médicaments qui doivent correspondre au plateau technique de cette structure sanitaire. Donc, je pense que ça entre dans les insuffisances spécifique et temporaire du personnel médical. Mais je voulais juste dire qu'il y a un grand travail qui a été fait par les partenaires, puisque eux, ils fournissent les médicaments dans le programme, ils ont le souci que les médicaments soient bien gérés. Donc on a ce qu'ils appellent le point focal gaz, c'est-à-dire que la gestion d'approvisionnement et de stock qui sont au district et au niveau des aires de santé pour justement assurer qu'il n'y a pas de problème. Au niveau du district, on a du personnel spécialisé pour le monitoring du stock des médicaments traceurs chaque fin de mois. Donc, et on a fait beaucoup d'efforts parce que je me rappelle qu'il y a 5 ans, c'était plus pire que ça, avec les médicaments qui finissaient sans même que le responsable de la pharmacie soit au courant. Donc, je pense qu'il y a des cas de personnel qui n'étaient pas formés ou bien qui sont formés mais ne maîtrisent pas. C'est un besoin de formation et supervision. Donc, je pense que ces problèmes peuvent arriver, mais ce n'est pas généralisé.
Merci, docteur. Docteur, quels sont les différents programmes de santé ainsi que les campagnes de sensibilisation qui sont implémentées dans votre district de santé?
Ok, le district de santé de ma première, effectivement, a des activités communautaires. Je me dis que c'est ça que vous voulez parler. Je voulais juste insister qu'en dehors de certaines activités pointues que vous entendez lors de la vaccination de polio, de la fièvre jaune ou bien de la rougeole, de tétanose, de choléra, de Covid, je voulais juste insister que chaque activité de santé est toujours, il y a un volet sensibilisation qui est toujours dedans. Même si vous avez l'impression que les districts, les formations sanitaires, le personnel médical se réveille seulement quand il y a cette activité. En fait, c'est parce qu'il veut intensifier la sensibilisation. Alors, à ce qui concerne cette année, comme je vous ai dit, toutes les activités de santé, des paquets de santé, est associé à un élément de sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire déjà ici. Mais pour cette année, je voulais juste soulever deux choses, deux aspects qui sont importants. Trois, si vous voulez dire. On a la campagne de la CPS, c'est-à-dire la chimio-prophylaxie saisonnière, c'est-à-dire les médicaments qu'on donne aux enfants de 3 à 5 à 9 mois avant la saison de pluie pour prévenir le paludisme. Il y aura des activités de sensibilisation qui sont intenses, que vous allez voir. Il y a la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action qui va se passer, je pense, à mai. Il y a un volet de sensibilisation et mobilisation qui est très intense. Et probablement, on devait avoir des campagnes de vaccination contre la polio, puisqu'on a des cas de poliovirus sauvage, pas sauvage dérivé, qu'on a détecté au Cameroun. Et il y a un retard pour la riposte. Donc,
je pense qu'on doit avoir ce poste. Deux tours. Donc voilà, je peux dire les activités qui vont bénéficier des intenses communications autour cette année.
Alors, si j'ai bien compris, ce sont des campagnes qui sont organisées annuellement.
Non, ce n'est pas annuellement. Je parle pour cette année. La distribution de moustiquaires se passe chaque 3-5 ans. La chimio-prophylaxie, c'est chaque année. Mais on a déjà fait beaucoup d'années. On peut s'arrêter, ça dépend de bénéfices qu'on a déjà récoltés. Donc, je parle pour cette année seulement.
C'est bien noté. Alors, docteur, quelles sont les principales causes justement de consultation dans les formations sanitaires de votre district? Aussi, si on peut avoir les chiffres pour étayer justement vos réponses.
Ok, merci. Je voulais juste insister que grâce au travail acharné de personnel de santé au niveau de formation sanitaire, aujourd'hui, on peut, avec l'accès à Internet, avoir toutes les informations sanitaires dans le district de santé et même au-delà du district. C'est une grande avancée avec le système de DHIS2. Et chaque jour, on s'améliore parce qu'avant, c'était très difficile d'avoir les informations. En ce qui concerne les consultations pour 2021, comme vous savez, le principal cause, c'est le paludisme. On a eu 39 600 cas de paludisme l'année passée. Et puis, on va suivre par les hémantias, c'est-à-dire que le vers intestinaux, avec 2269 cas, les affections de voie respiratoire. J'insiste, les affections de voie respiratoire, c'est en deuxième position. Avec 6118 cas, suivis par les cas de hémantias. Je voulais insister. Et puis, on a des affections de voie respiratoire basse, qui sont à 2135. Et puis, on termine par les affections chroniques respiratoires. On pourrait aussi parler de maladies intestinales, c'est-à-dire les diarrhées, mal d'estomac, gastro-entérite et tout. Bref, voilà donc quelques principales causes de consultation pour l'année qui vient de passer.
S'agissant spécifiquement des consultations prénatales, est-ce qu'on peut avoir des chiffres?
Pour les consultations prénatales, je peux vous dire que les femmes enceintes qui ont reçu au moins une consultation prénatale pour 2021, on a à peu près 17 000 femmes qui ont eu cette première consultation pour la CPN. Bon, si on va continuer jusqu'à la CPN 4, ça baisse vers à peu près plus de 4 000. Donc le chiffre baisse. Ça. Mais je voulais juste insister que quand on regarde les chiffres, on va voir beaucoup de CPN entre 10 et 14 ans. On était à 74 entre 10 et 14 ans et 3318 entre 15 et 19 ans. Donc ça explique la prématurité dans la grossesse dans notre district.
Est-ce qu'on peut aussi avoir le nombre de naissances dans le district de santé Mara Premier au cours de l'année 2021?
Oui, c'est les accouchements enregistrés. Parce que là, il faut dire quelque chose. Les accouchements, c'est plus dans la communauté. Mais déjà, si on regarde les chiffres des accouchements 2021, on a à peu près 4000 enregistrés dans la formation sanitaire et 300 qui ont accouché dans la communauté, au moins fait amener dans la formation sanitaire pour les soins. Mais la majorité des accouchements se passent dans les communautés. On n'a pas une idée. C'est l'occasion d'insister sur l'utilisation des services de santé de maternelle et infantile qui existent dans le district avec les activités de chèque santé, les activités de PBF et autres activités. Il faut absolument utiliser les services de santé maternelle et infantile.
Alors, docteur, en tant que répondant et même responsable des différentes structures sanitaires dans votre district de santé, quelles sont les mesures que vous prenez, que vous implémentez pour encourager l'amélioration de la qualité des soins dans votre district de santé, qu'il s'agisse des sanctions, des formations, des recyclages ou bien des mesures de motivation même?
Ok, merci. Pour le district de santé, la première chose qui est très importante pour nous, c'est la supervision. Chaque année, une formation, chaque mois, une formation santé va bénéficier d'une supervision. Dans le cadre de PBF, on passe en revue tous les services, tous les systèmes. C'est un système de performance, de résultats basés sur performance qu'on est en train de mettre, que le Cameroun a adopté pour améliorer la qualité des soins. Donc le PBF est très regardant sur la qualité des soins. Avec les outils du PBF, on est capable de, on supervise les formations sanitaires, suivies par les régions de coordination où on donne le feedback clairement sur les insuffisances qu'on pourra constater. En dehors de ça, il y a d'autres supervisions qui sont spécifiques à certains programmes, comme même dans les formations sanitaires. Ça peut être focalisé sur le paludisme, sur la malnutrition, sur la vaccination,
Et toutes ces supervisions, c'est pour insister sur la qualité. Il y a aussi la formation, comme vous avez dit. Le personnel de district bénéficie beaucoup de formation de différentes sortes. Et chaque fois, on est en train de faire le niveau de besoin en formation de différents types de personnel. Comme les personnels sont mobiles, ils sont affectés, ils sont là. Donc, si on a de nouveaux personnels, ou bien on a détecté les besoins en formation, on ne va pas hésiter d'avoir une formation. Les partenaires sont vraiment avec nous pour la supervision et pour les formations. Bon, en cas de problème particulier, là, ça devient plus complexe. Ça devient un contrôle ou bien l'audit et le district se déplace pour aller dans la formation sanitaire et bien analyser la situation et proposer les solutions aux douanes. Maintenant, pour les félicitations, je pense que chaque année, on se trouve au début de l'année et c'est l'occasion de féliciter le personnel. Il y a des formations sanitaires qui excellent vraiment, qui font l'effort. C'est l'occasion de féliciter, mais c'est aussi l'occasion d'aller plus vers ceux qui n'arrivent pas à arriver parce que parfois, ce n'est pas lié à les facteurs intrinsèques du chef de centre. C'est lié à l'environnement de la structure sanitaire et tout. Donc, on se déplace aussi quand on se rend compte qu'un chef de centre a des difficultés pour aller lui apporter du soutien.
Quelles sont les perspectives pour votre district de santé sur le plan infrastructurel et même de ressources humaines, qu'il s'agisse des perspectives à moyen ou à long terme?
Bon, on ne peut que souhaiter qu'on a plus de personnel. On a plus de personnel. Bon, je vous ai dit que le problème de personnel est sérieux. On a plus de personnel, quantité en qualité, dans les formations sanitaires. Et puis, comme on disait avant, pour enrichir la carte sanitaire, il faut procéder à le découpage. On a déjà fait le découpage, mais il faut intégrer les nouvelles zones de responsabilité, les aires de santé et les FOSA, pour que les soins se rapprochent plus de bénéficiaires. Alors maintenant, l'infrastructure, c'est vraiment le tendon d'Achille, le district. Vous-même, vous voyez, le district n'a pas une salle de réunion. On souhaite que prochainement, on a des structures qu'il faut pour permettre de mieux offrir les soins. Aussi, les matériels roulants. Je pense qu'avec le temps, on peut avoir tous ces éléments pour permettre de mieux foncer dans le district. Bon, je pense que le district de santé de Mara peut même bel avenir. Avec l'énergie que je vois, les collaborateurs qui mettent dans le travail, je pense que ça va aller de mieux en mieux.
Alors, docteur, nous sortons de notre émission, mais je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à adresser un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs pour les encourager justement à faire plus confiance à nos formations sanitaires. J'aimerais que ce mot d'encouragement soit dit non seulement en français, mais aussi en anglais, s'il vous plaît.
Alors, je vous remercie pour cette opportunité. Vous savez qu'on a un problème d'utilisation des services au Cameroun. Les gens demandent les structures de santé. C'est-à-dire, quand c'est pour demander un centre de santé ou demander le personnel, on les sent. Mais dès lors que ces structures sont mises en place, ça doit fonctionner. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'utilise pas. On va utiliser les médicaments de la route, on ne vient pas bénéficier de prestations qui sont disponibles dans ces formations. Donc, il doit participer, il doit faire beaucoup d'efforts pour la viabilisation des structures sanitaires. S'il laisse les structures sanitaires qu'ils ont demandées, ils vont se rendre compte que ça va mourir. Tout simplement. Mais plus spécifiquement, l'utilisation de services de santé maternelle et infantile, c'est-à-dire la consultation prénatale, l'accouchement ou la CS, la césarienne, les consultations postnatales, la vaccination de l'enfant, ces services sont disponibles et doivent être utilisés. On doit profiter de présence de chèques santé. Et maintenant, on est en train de parler même de micro-tacafol. Donc, il y a tellement de partenaires qui sont prêts à diminuer l'obstacle financier pour atteindre les soins par les bénéficiaires. Donc, je insiste vraiment que surtout les femmes enceintes et les enfants qui font l'effort de venir bénéficier de prestations de soins de santé dans ces formations sanitaires. Thank you for the interest you have in health matters. I was going to say that we always find people very serious when they are looking for a health structure. Once the health structure is created, we find ourselves abandoned, and the poor nurse is there, and the services are not utilized. Consequently, the health structure dies off. So I want to encourage people to know that this is their health structure they ask for. Let them use the services. And I'll be very, very specific with maternal health, maternal and child health.
antenatal consultations, delivery at health facilities, postnatal consultations, and vaccination of infants. These are services that are functional and they have a great impact on reducing the number of maternal deaths and infant deaths in our country. It is unacceptable that a woman should die while giving birth. It's unacceptable that a child should die for a disease that can be prevented by vaccination. So I want to encourage all the population to use these services and benefit from them. We have lots of opportunities. You have Chek Sante, which greatly helps in reducing the financial obstacle. With just a little amount of money, you are able to benefit from all the health offers that exist for a pregnant woman and up to 41 days after delivery. It is present in the district. I don't see why people should not use this opportunity. So I really encourage people to use maternal and infant health services to reduce maternal and infant mortality in our country.
Docteur Mena Augustin, chef de district de santé de Mara Premier, merci une fois de plus d'avoir répondu aux questions de Radio Serré.
C'est moi qui vous remercie et je tiens à vous remercier au nom du district, au nom de tous les collaborateurs pour la confiance et la collaboration que vous portez vers le district de santé Maroua Premier. Et je souhaite que la population va bénéficier aussi longtemps que possible des conseils qu'on va prodiguer à l'occasion de ces échanges qu'on a chaque semaine.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous, dans laquelle nous avons passé en revue la carte sanitaire du district de santé de Maroua Premier avec le chef du dit district de santé, le docteur Mena Augustin, que nous remercions une fois de plus de nous avoir accordé de son précieux temps. S'il faut retenir quelque chose de cette émission, c'est que le district de santé de Maroua Premier dispose de suffisamment d'infrastructures sanitaires, d'un personnel qualifié et dévoué pour répondre à tous les besoins de sa population. Nul besoin donc de recourir à l'automédication ou aux solutions qui peuvent constituer des menaces pour notre santé ou celle de nos proches. Faisons confiance à nos formations sanitaires et nous ne serons pas déçus. Tout est mis en place pour que nous soyons convenablement pris en charge et à un coût adapté à notre bourse. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Nicole Massaï à la réalisation, Marcino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.